Ça va bien, vous autres? Vous êtes en forme? Hey boy, vous êtes en forme? Éphésiens 4. Vous savez que ça fait à peu près 26 ans. Il faudrait que je vérifie avec mon cerveau qui est assis là-bas. C'est elle qui connaît les dates. Je suis tellement pas loin avec les dates. Mais ça fait à peu près 26 ans que je connais le Seigneur. Puis pendant que j'étais en train de méditer sur Éphésiens 4 cette semaine, puis j'étais en train d'étudier le passage, je réalisais que à cette époque-là, et jusqu'à, je me suis converti à 19 ans, jusqu'à ma conversion, j'allais dans la vie en ayant un guide qui était une voix intérieure. J'avais une voix intérieure qui était mon guide, et ça m'allait très bien comme ça. C'est en écoutant cette voix-là que je déterminais ce qui était bon puis moins bon, même si j'avais été instruit dans une église évangélique depuis pratiquement ma tendre enfance, donc je connaissais beaucoup de choses sur la Bible, c'était pas ça mon guide. Puis ça m'allait comme ça. J'étais bien comme ça, je prenais mes décisions par moi-même, selon mon opinion, selon mon sentiment, mes désirs du moment. Mais une chose que je réalisais pas, puis que j'ai appris à réaliser à travers les années, puis cette semaine, en méditant le passage, c'était encore plus évident. Je réalisais pas à quel point cette voix intérieure-là était étrangère à la pensée de Dieu. Puis, comprenez-moi bien, c'est pas que je croyais pas en Dieu. Je croyais en Dieu. C'est pas que j'étais pas quelqu'un de spirituel. J'étais quelqu'un de spirituel. Mais malgré cela, cette voix intérieure-là était étrangère à la pensée de Dieu. Elle ne concordait pas avec la pensée de Dieu, puis j'en avais pas vraiment conscience. Et ça, c'est mon histoire à moi. Je connais pas votre histoire à vous, je connais pas votre cheminement, mais pendant que je méditais cette semaine, je me disais, j'étais quand même peut-être pas tellement original. En Occident, je pense que l'Occident se targue, se fait un point d'honneur, que chacun ait son propre guide. Chacun écoute sa voix intérieure pour se diriger sans nécessairement prendre conscience à quel point cette voix intérieure-là est en fait ignorante des choses de Dieu. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin ensemble dans Éphésiens 4 et de ce que cette rencontre que j'ai faite à 19 ans avec une personne est venue transformer. C'est pas mon épouse, c'est un petit peu plus tard, restant, mais cette rencontre avec une personne est venue changer cette voix intérieure-là en profondeur. On va prier ensemble. Père, merci pour ta grâce. Merci, Père, d'être ici au milieu de nous ce matin par ton Esprit Saint. Tu es présent dans nos cœurs, Seigneur, puisqu'on a cru en toi. Tu es venu faire ta demeure en nous. C'est mystérieux, c'est fantastique, Seigneur. C'est une grâce que tu nous fais. Et ce matin, si on est assemblés, c'est pour t'adorer, c'est pour élever ton nom dans nos cœurs. Et écouter ta voix, Seigneur, à travers ta parole et à travers le témoignage que ton esprit rend en nous, Seigneur, à cette sainte parole que tu as inspirée. On te demande de nous instruire, de nous faire grandir. On te demande de venir nous parler à chacun d'entre nous dans cette salle ce matin. Et si quelqu'un parmi nous ne te connaît pas personnellement, Seigneur, accorde-lui cette grâce d'ouvrir les yeux de son cœur afin qu'il y ait ce cheminement vers toi. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. On va écouter la parole de Dieu ensemble.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre Éphésiens au chapitre 4, verset 17, jusqu'au chapitre 5, verset 21, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Éphésiens, chapitre 4, verset 17, au chapitre 5, verset 21. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance, de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu.
Merci, Julie. Merci beaucoup. Hier soir, on est allé se promener à Montréal. On est allé voir les géants. Est-ce qu'il y en a qui sont allés voir les géants? C'est de toute beauté. Moi, pour moi, c'est un retour au monde des Lilliputiens, c'est un retour à l'enfance. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment trippé. J'aime tellement ça. Dernière journée pour aller les voir en passant. Puis, c'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. Je ne sais pas combien il y avait de personnes dans la foule. Nous, on est arrivés à la fin lorsque les deux se sont retrouvés. Puis c'était vraiment magique. Puis il y a une émotion qu'ils réussissent à transmettre à travers ces marionnettes-là. Mais une des choses qui m'a frappé pendant que j'étais en train de regarder ça, c'était de réaliser à quel point, très volontairement, ceux qui les ont conçus ne cachaient pas les mécanismes. Au contraire, on voit tout le long les gens qui sont en train de les activer, qui sont dans des costumes d'époque, qui ont l'air des petits valets habillés en rouge, puis qui sont en train de bouger ces grandes marionnettes-là, puis ça me frappait, c'est vraiment volontaire, il faut qu'on voit, puis même, t'entends dans les micros des directives de manipulation des marionnettes, tout ça, puis je me suis dit, c'est quand même fascinant parce que on trouve beau de voir justement l'ingéniosité humaine derrière tout ça, puis de pas cacher tout ça derrière la technologie. Et pendant que j'étais là dans la foule, je me disais, À notre époque, à nous, en Occident, alors qu'avec ces grandes marionnettes-là, on ne veut surtout pas cacher les créateurs qui sont derrière. On ne veut pas cacher tout ça. Nous, par contre, comme êtres humains, on veut absolument se détacher de l'idée qu'on aurait un créateur à qui on devrait rendre des comptes, qui serait là, qui serait derrière nous à quelque part. Puis mon illustration a une limite parce que je ne suis pas en train de dire qu'on est des marionnettes. Vous comprenez? C'est pas ça que je suis en train de dire, mais pensez à Pinocchio. J'ai déjà donné cette illustration-là parce que je la trouve très, très bonne. Alors, je me permets de la reprendre, mais Pinocchio, c'était effectivement une marionnette. Et la faute de Pinocchio, c'est pas d'être devenu un vrai petit garçon. Ça, c'était une grâce, c'était une bénédiction. La faute de Pinocchio, c'est quoi? C'est de vouloir se détacher, abandonner son père, celui qui l'avait fait, puis être complètement indépendant. Puis c'est là qu'il se met à faire des folies. C'est là qu'il se met à faire des folies. Et j'ai trouvé ça intéressant hier, lorsque j'étais devant ces marionnettes-là, de me dire, en Occident, est-ce que c'est pas ça un peu qu'on fait? On rejette l'idée qu'on a un créateur qui nous a designé, qui nous a pensé. Et est-ce que c'est pas ça un peu la pensée contemporaine? Ce matin, on va voir ensemble qu'autrefois, nous avions perdu tout sentiment. Voici comment je résume ce long passage que Julie nous a lu ce matin. Autrefois, nous avions perdu toute sensibilité à la vérité de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons connu Jésus-Christ et sa pensée et son style de vie. Je répète ça. Autrefois, nous avions perdu toute sensibilité à la vérité de Dieu, mais aujourd'hui, nous avons connu Jésus-Christ et sa pensée et son style de vie. Regardez avec moi Éphésiens 4, 17. 17 à 19. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Quand j'étais en train d'étudier le passage, puis j'étais en train de méditer là-dessus, je me disais, aïe, c'est... il me semble que ça doit être tellement choquant pour des Occidentaux de lire un passage comme celui-là, de prétendre, c'est comme si le christianisme se plaçait dans une posture condescendante où on regarde les gens qui sont pas chrétiens puis on dit, dans le fond, c'est tous des ignares puis tout ça, mais les mots-clés pour comprendre ce que Paul est en train de dire ici, c'est le verset 18, je m'excuse, le verset 17 à la fin, qui marche selon la vanité de leur pensée. Et donc, l'idée me semble est très représentative de l'Occident. Je l'ai déjà dit en citant ce passage-là. L'idée est très représentative de l'Occident. Est-ce que c'est pas ça qui caractérise l'homme moderne occidental, de vouloir faire les choses de manière indépendante, par lui-même, selon ses pensées propres et intérieures? C'est quand même ça en général. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pensais avant de rencontrer Christ. Et c'est souvent ça que je rencontre lorsque je discute avec des amis qui sont pas chrétiens. Ils vont fermement affirmer leur désir d'être leur propre juge et de suivre leur propre pensée. Et tout ce que Paul est en train de dire ici, c'est que les gens ne réalisent pas qu'en faisant ce choix-là, ça enclenche une série d'engrenages, de conséquences. Parce que cet endurcissement-là, ce détachement-là à l'égard de Dieu fait que je deviens mon propre juge, je vais donc m'entretenir dans une certaine ignorance à l'égard des choses de Dieu. Comme je le dis souvent, c'est pas pour dire que les gens ne sont pas spirituels. Il y a toutes sortes de spiritualités. C'est pas pour dire que les gens ne croient pas, par exemple, en Dieu. Mais est-ce que, lorsque je décide d'avoir ma propre pensée, être mon propre guide, vraiment je connais la pensée de Dieu? Je connais la vie qui est en Dieu. Est-ce que vraiment je connais Dieu? Et c'est ça que Paul est en train de dire ici. Et ce que Paul ajoute à cette idée, c'est que ça va impliquer une ignorance. Ça va assombrir le discernement. Verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. En d'autres mots, avant de connaître Christ, tu écoutais ton cœur. Tu écoutais tes pensées. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Et Paul va un petit peu plus loin, il y a des fois des perles avec le grec qui sont le fun à souligner. Lorsqu'il dit au verset 19, « ayant perdu tout sentiment », littéralement, c'est « ayant perdu toute sensibilité ». D'accord? Puis le mot grec qui est là, c'est de ce mot-là en français qu'on tire le mot « analgésique ». Ça vous dit quelque chose? Hein, on prend ça pour se rendre insensible à certaines douleurs, à certains nerfs, ou s'il y a de la douleur, on va prendre un analgésique pour endormir cette sensibilité-là, n'est-ce pas? C'est ça qu'on fait. Mais c'est ça que Paul est en train de dire ici. Ils deviennent insensibles, leur cœur, en écoutant ton propre cœur à toi, tu deviens insensible à la vie de Dieu, à la pensée de Dieu. Et ça va se traduire de toutes sortes de manières dans la culture populaire. Laissez-moi vous donner des exemples. Très, très simple, parce que Paul devient très pratique. Dans le fond, Paul nous donne plein de références pratiques dans ce passage-là. Il va dire que toute amertume, toute animosité, toute colère, chose qu'on va trouver normalement, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous, vous qui êtes sensibles à la pensée de Dieu. Un peu plus loin, au chapitre 5, verset 3 et 4, que la débauche ni impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Alors, comment ça se traduit dans la culture contemporaine? Laissez-moi vous donner des exemples. L'humour sur la sexualité est omniprésente. Dans l'humour, on tombe souvent dans la facilité, puis on s'en va dans... C'est comme au plus vulgaire, le plus populaire pratiquement. Et ça, c'est cette insensibilité-là qui est là. Notre culture critique, par exemple, je vais être dur un petit peu ce matin... Désolé pour les oreilles un peu sensibles, mais notre culture critique des cultures et des religions qui dénigrent les femmes, désolé encore une fois pour les cœurs sensibles, alors qu'elles fantasment de soumission extrême dans la sexualité et qu'elles célèbrent la femme objet aussi à travers sa culture. OK, je comprends pas. On critique des cultures qui ont l'air de dénigrer les femmes, puis hop, quand on regarde c'est quoi les fantasmes qu'il y a dans la culture populaire sur le plan sexuel, c'est drôle, c'est assez extrême comme soumission, ces affaires-là. Tu vois une photo du Beach Club avec un gars, puis, encore une fois, je suis désolé, deux pitounes de chaque côté. C'est pas des pitounes, c'est des femmes. Mais ils sont présentés comme ça, comme des femmes objets. Puis il n'y a pas personne qui dit « Ah, ça n'a pas d'allure, discrimination, encore des femmes objets! » Non, c'est drôle, c'est le Beach Club. Fait que t'as un gars qui est riche à craquer avec deux filles à côté qui sont finalement juste des objets pour le mettre en valeur. C'est comme, on voit plus ces espèces de contradictions-là alors qu'on veut défendre l'égalité de l'homme puis de la femme dans notre société. Je veux critiquer la fraude à l'échelle gouvernementale puis en même temps faire des transactions en dessous de la table, je le dis souvent. Un autre exemple, on peut pas célébrer la richesse à l'excès. Par exemple, l'Auto-Québec, qui fait juste comme, c'est ça qui va te rendre heureux, tu vas gagner, puis c'est démocratisé, puis c'est géré par l'État, puis en même temps avoir des valeurs de partage. Fait qu'imaginez un instant, je pensais à ça, puis je me disais, pourquoi est-ce qu'on ferait pas avec l'Auto-Québec que chaque fois que le gros lot est gagné, c'est donné à des œuvres communautaires? Ce serait génial. Ce serait comme une manière de se mettre ensemble pour faire des gros changements dans la société. Mais je sais pas si les gens iraient acheter des billets. Tu sais, cette semaine, le gros lot, 75 millions pour Bouffe pour tous. Je ne sais pas si les gens contribuent. Même on pourrait rendre ça un petit peu plus attirant. Tu sais, celui qui gagne le gros lot gagne le choix de décider à qui ça va être donné, mais pas à son intérêt. Je ne sais pas si ça marcherait. Je ne sais pas si ça fonctionnerait. Je ne sais pas si les gens donneraient autant. Puis pourtant, on est dans cette culture-là avec du pain, des jeux, puis on entretient les pauvres avec cette espèce de rêve-là de la richesse, alors qu'on connaît les conséquences, la majorité des gens qui gagnent des gros lots, ça brise leur vie plus qu'autre chose. Donc, vous voyez, il y a cette espèce de « je veux me diriger moi-même », puis en même temps, je deviens insensible à la pensée de Dieu, puis je vois pas ces contradictions-là dans la culture. Je vis dans cette culture-là, puis ce que Paul nous dit ici, c'est que toi, tu as connu Jésus-Christ. Tu as connu Christ. Regardez verset 20-21. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » Puis il y a quelque chose de super important. Je ne sais pas si on l'a déjà bien illustré ici à l'Église. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais regardez bien le verset 20 avec moi. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Cette traduction-là est la bonne manière de rendre ce que Paul est en train de dire ici en grec. Paul utilise une expression en grec qu'on trouve nulle part dans la littérature de l'époque, puis qu'on trouve nulle part après. Paul faisait ça, des fois, il inventait des mots, d'accord? Et on trouve pas cette idée-là, c'est littéralement ça qui est écrit en grec. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Pas que vous avez appris sur Christ, pas qu'on vous enseignait sur Christ. Et regardez le verset suivant. « Si du moins, vous l'avez entendu. » Pas si vous avez entendu parler de lui, si vous l'avez entendu. Et tous les commentateurs sont d'accord pour dire, Paul est en train de nous parler ici de plus qu'une doctrine, de plus qu'un message sur une personne qui est venue mourir sur la croix pour nos péchés. Il est en train de nous parler d'une rencontre avec une personne. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, que vous avez connu Jésus-Christ, pas connu sur Jésus-Christ. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous, si vous l'avez entendu, si vous avez entendu sa voix. Jésus avait dit, hein, Jean nous rapporte ces paroles-là, « J'ai plusieurs autres brebis, puis elles vont entendre ma voix. Mes brebis entendent ma voix, répondent à mon appel. » Voyez-vous, le christianisme, c'est une foi qui est remplie d'informations. On étudie un livre pour savoir des choses sur Dieu. Donc, Paul écrit une lettre, on l'étudie, on la décortique, on essaie de connaître des choses sur Dieu. Mais ce qu'on poursuit à travers ça, ce n'est pas d'apprendre des choses sur Dieu. C'est une rencontre avec Dieu. Donc, il y a quelque chose de profondément surnaturel ici qui fait mention. C'est pas mystique, c'est pas comme un mystère. Un jour, j'étais chez moi, une grande lumière est apparue. Puis j'ai vécu quelque chose, j'ai connu Dieu, puis si on me demande de l'expliquer, je ne peux pas vraiment l'expliquer. Non, un chrétien peut parler de long en large de Jésus-Christ, peut parler de la grandeur de son amour concrètement, de ce qu'il a fait dans l'histoire. On connaît plein de choses sur Dieu, mais connaître des choses sur Dieu ne font pas de moi un chrétien. Et donc, Paul est en train d'invoquer ici un moment où ses lecteurs ont rencontré Jésus-Christ, ont connu Jésus-Christ et ont entendu son appel, ont entendu sa voix. Et ça, c'est venu révolutionner leur expérience expérience de Dieu. C'est pour ça que Paul, un peu plus tôt dans Éphésiens, a dit que c'est par la grâce qu'on a tous été sauvés. Ceux qui étaient prêts, comme les Juifs, qui connaissaient la loi de Dieu, ils connaissaient plein de choses sur Dieu. Je connaissais plein d'affaires. Moi, je connaissais plein de choses sur Dieu. J'ai commencé à fréquenter cette église-là à l'âge de 7 ans. Je lisais ma Bible en bande dessinée. Un an après ma conversion à 19 ans, je regardais les gens dans l'église puis je disais, « Tableau, ils n'ont jamais lu la Bible, ces gens-là. » Moi, je connaissais déjà toutes ces affaires, même avant de me convertir. Mais avant 19 ans, je connaissais des choses sur Dieu. À 19 ans, Dieu, dans sa grâce, m'a fait rencontrer Jésus-Christ. Et d'une manière que je peux difficilement expliquer, j'ai entendu sa voix. Ce n'est pas une voix audible, mais c'est une voix qui est venue marquer mon histoire. Et Paul nous dit un petit peu plus loin, au verset 30, puis encore un peu plus loin, il nous parle du Saint-Esprit qui est venu en nous. À 19 ans, il y a une deuxième voix qui est venue en moi. Avant ça, une voix dirigeait ma vie. C'était la voix de Yannick. Paul va l'appeler le vieil homme. Et puis, à 19 ans, j'ai entendu la voix de Christ. Des choses que je savais sur Jésus-Christ ont pris une dimension complètement extraordinaire. Je me suis abandonné entre ses mains. J'ai accepté la grâce qui m'était offerte. Et une deuxième voix est apparue en moi. C'est celle de l'homme nouveau, nous dit l'apôtre Paul. Puis il dit, vous avez connu. Vous avez connu Christ, du moins vous avez entendu sa voix. Et ça, c'est chacun d'entre vous qui pouvait déterminer ça. Si vous dites, je comprends pas de quoi tu parles, j'ai pas vécu ça, j'ai pas entendu une voix, peut-être que t'as pas encore saisi l'évangile, peut-être qu'il y a une œuvre de l'esprit qui doit se compléter en toi. Même si tu cherches Dieu, peut-être qu'il manque encore quelque chose qui est là. Si tu dis, non, je comprends, il y en a que ces deux voix-là qui sont en moi, celle de l'esprit qui m'appelle à faire le bien, et des fois mon vieil homme, vous rappelez l'image de la prison qu'on utilise depuis le début de la série, des fois j'ai le goût d'aller me rasseoir dans ma vieille prison, puis d'aller me mettre en petite boule là, puis retourner dans ce qui est sécure pour moi. Puis ce que Paul est en train de parler ici, c'est qu'on est dans ce combat-là, il dit, vous avez appris à vous changer par vous-même. Ceux qui ont eu des enfants, vous connaissez la petite enfance, lorsqu'on commence à apprendre à nos enfants à mettre les pantalons du bon côté, puis à mettre le chandail, puis à enlever du linge, puis remettre du linge. Puis là, au début, ils commencent à s'amuser, puis ils arrivent, puis c'est n'importe quoi, mes amis. Puis là, hop, ils commencent à l'attraper, puis là, ils commencent à s'habiller par eux-mêmes. Là, tu arrives à un point où tu mets le linge à côté de leur lit, puis pouf, ils apparaissent le matin, ils se sont changés. Paul dit, vous avez connu Christ et vous avez appris à vous dépouiller, à vous dévêtir par rapport à votre vie passée du vieil homme qui fonctionnait seulement en suivant cette voie-là, qui ne connaissait pas Dieu. Et vous avez appris à vous revêtir de l'homme nouveau. Vous avez reçu ce discernement-là. Vous l'avez à l'intérieur de vous maintenant. C'est votre expérience. Un jour, on n'entendra même plus cette voie-là du vieil homme. Nos vieux vêtements souillés, on n'aura même plus le goût de les mettre. Un jour, je vais me présenter devant Christ, puis Christ va fermer les portes de ma prison. Je ne pourrai même plus y retourner. Je vais être entièrement libéré de ça. Je n'aurai plus d'écho de ça quand je vais être devant mon Sauveur. Mais jusque-là, on est dans un processus, voyez-vous, où j'ai cette vieille voix-là qui dominait toute ma pensée avant de connaître Dieu. Puis j'ai cette nouvelle voix-là qui est celle de l'Esprit en moi. Et je peux l'attrister, l'Esprit. Je peux la tasser, la faire taire un moment, cette voix-là. Je suis un enfant de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. J'ai goûté, j'ai connu que Dieu est bon, puis je veux revenir là, mais je veux apprendre ça. Et donc, c'est un processus dans lequel on est en train de grandir, on est en train de cheminer, puis on apprend. C'est drôle, Augustin, certains l'appellent Saint-Augustin, mais c'est Augustin. Augustin prenait des passages comme ceux-là puis il les rendait très, très pratiques. Regardez ce que Paul fait dans Éphésiens 4. Puis après ça, je vais vous parler d'Augustin. Il dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de faire? Il a dit, tu as reçu l'Esprit, tu as un discernement maintenant qui est là, cette voix-là de l'Esprit est là en toi, tu connais Christ. Fait que tu peux pas marcher comme avant en mentant. Tu vas renoncer au mensonge, puis tu vas te revêtir de la vérité. Fait qu'Augustin, qui prenait ces passages-là de manière très, très concrète, avait cette enseigne, on raconte ceci, dans sa salle à manger, puis c'était écrit ceci, « Celui qui parle en mal d'un homme ou d'une femme qui n'est pas dans cette pièce n'est pas bienvenu à cette table. » Parce qu'il voulait mettre en pratique ce passage-là. Il voulait se dévêtir du vieil homme, et se revêtir quotidiennement de l'homme nouveau. Et donc, ce que Paul fait à travers tout ce long passage qu'on a lu ce matin, il nous enseigne un principe. Il nous dit, vous qui avez connu Jésus-Christ, vous avez reçu ce discernement-là. C'est une grâce de Dieu. C'est vraiment pas l'objet d'être prétentieux puis de penser qu'on est meilleur que les autres. Mais vous l'avez reçu, ce discernement-là. Vous n'avez plus seulement que la voix du vieil homme en vous. Vous avez la voix de l'Esprit, de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, dans la vérité. Puis tout ce qu'il fait, c'est qu'il dit maintenant, usez de discernement. Et tout le passage, ce sont des exemples concrets de domaines dans nos vies où on doit user de discernement. C'est tout le point de Paul. Tu peux maintenant examiner toutes choses pour faire le bien selon Dieu. J'ai parlé au début qu'on vit dans cette culture-là où les gens veulent avancer selon leurs pensées. Et donc, ces gens-là font la culture, font les médias, font la publicité, définissent le travail, définissent des valeurs par rapport au travail, les relations interpersonnelles, l'engagement, la sexualité, l'amitié. Ils pensent les choses au meilleur qu'ils peuvent eux-mêmes le penser. Et même s'il y a plein de bonnes choses dans notre culture, comme chrétien, j'ai entendu la voix de Jésus-Christ, j'ai connu Jésus-Christ selon la vérité, et maintenant, j'ai l'Esprit de Dieu qui habite en moi pour user de discernement. Et regardez bien ce que Paul fait de manière concrète, d'accord? Verset Éphésiens 5, 10 et 11. « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Verset Éphésiens 5, 15. « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, avec discernement. » Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Éphésiens 4, 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Alors, qu'est-ce que Paul fait? Il donne des exemples. La langue. Comment est-ce qu'on sort de la langue? Éphésiens 4, 26, 27. Je m'excuse, là, c'est la colère. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Premier principe qui revient constamment avec les exemples pratiques, c'est renonce au mal. Use de discernement pour voir si ta pensée est selon Dieu ou selon le monde. Ta pensée est selon Dieu ou selon le vieil homme. Deuxième chose que tu vas faire, fais le bien. Donc, dans un autre exemple par rapport avec le travail, Éphésiens 4, 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, renoncer au mal, ça va jusque-là, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, choisir de faire le bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et donc, ça, c'est le troisième principe pour les bonnes raisons. Je renonce à faire le mal, je choisis de faire le bien et je le fais pour les bonnes raisons. La bonne raison pour le travail, c'est pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Fait que si je vais avec la culture va dire, sois pas un paresseux, travaille. C'est bon. Dans quel but? De t'enrichir. Ça marche pas. Ça marche pas. Bibliquement, ça fonctionne pas. Le chrétien, il dit, je renonce au mal, je serai pas paresseux, je vais faire le bien, et je sais pourquoi je fais le bien, c'est parce que je veux prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, qui n'ont pas l'opportunité d'aller travailler, qui n'ont pas la santé pour aller travailler. Je veux donner, je veux être généreux. Voyez-vous, donc il y a trois choses. Je renonce au mal, je choisis de faire le bien et je connais les raisons pour lesquelles je suis en train de le faire. Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Je renonce au mal. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, je choisis de faire le bien. Le but, c'est quoi? Qu'ils servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Mon but, c'est quoi? C'est de construire les gens autour de moi. Je renonce au mal, je choisis bien, je connais la raison. Puis Paul fait ça avec plein de situations. Alors, si je donne des exemples pour vous aider à réfléchir cette semaine en relisant tout le passage, comment tirer le maximum de ce passage-là? Prenez le temps de le relire, puis de voir, d'évaluer si votre pensée à vous est renouvelée ou si vous fonctionnez encore selon le vieil homme. Par exemple, la vérité et le mensonge, le motif de la vérité, il aborde ça dans le passage. La colère et le péché, c'est où la pensée selon Dieu, puis quand est-ce que je suis en train de pécher à ce moment-là? Le travail, l'intégrité du travail, le but du travail, il l'aborde ici. Tout ce que je dis comme parole dans une journée, c'est quoi le but de mes paroles? Il l'aborde dans le passage ici. L'amertume et la calomnie versus la bonté et le pardon. La débauche, la pornographie, la sexualité libre ou la sexualité sainte dans le mariage. Il l'aborde dans le passage ici, il va le développer encore plus loin. Les blagues osées, salaces ou les blagues saines. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine? Vous pouvez prendre le texte et aller voir comment Paul traite des questions pratiques de nos vies, comme toutes celles que j'ai données là, et comment Paul nous aide à réfléchir pour avoir ce discernement-là. Parce que la chose à retenir ce matin, c'est que si tu connais Jésus-Christ, si tu connais personnellement Jésus-Christ, tu as l'Esprit de Christ qui habite en toi. Et donc, tu as du discernement pour discerner comment le vieil homme parlait puis comment l'homme nouveau doit parler. Tu as du discernement pour te dépouiller des œuvres du vieil homme puis te revêtir des œuvres de l'homme nouveau. Et des fois, on se prend au piège comme chrétien à se mettre à dire des niaiseries. C'est le vieil homme qui parle. Puis là, j'ai besoin qu'un frère, qu'une sœur vienne me voir. La semaine dernière, on parlait des conversations spirituelles. C'est ça, Éphésiens 4, beaucoup. On va s'édifier par des conversations spirituelles. Des fois, j'ai besoin qu'un frère, une sœur vienne me voir pour me dire, « Yannick, je comprends pas ce que j'entends dans ta bouche. » Dieu voulant, il va le faire avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, il va le faire avec amour, mais je ne comprends pas ce que j'entends dans ta bouche. J'ai l'impression d'entendre le vieil homme parler. Mais en anglais, je m'excuse, l'angliciste, tu connais mieux que ça, you know better than that. Tu sais, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et c'est de ça dont les prophètes parlaient lorsqu'ils disaient qu'on n'aurait plus d'enseignants entre nous, c'est que chacun d'entre nous, on aurait l'Esprit Saint. Et donc, je crois que ce que Paul fait ici dans le passage, il ne nous fait pas une liste exhaustive des choses qui sont bonnes et mauvaises dans la culture. Je crois qu'il nous donne un modèle pour examiner toutes choses et discerner ce qui est bon. Tous les jours, j'ouvre les Saintes Écritures, je médite la parole de Dieu pour aiguiser mon jugement et j'écoute l'Esprit Saint qui est en moi. Je m'en vais au travail, les choses se passent, il y a des décisions d'entreprise, il y a des dîners sur l'heure du lunch, il y a des conversations, j'allume Internet, j'allume la télé, je décide quel film je vais aller écouter. Et c'est pas vrai que j'ai besoin que le pasteur soit assis à côté de moi pour me dire « pas bon ». Moi, je ne ferais pas ça à ta place. C'est pas vrai que j'ai besoin constamment de me dire « Ah, si Jésus était ici, est-ce qu'il resterait assis avec moi devant la télé? » C'est parce qu'il est là. Anyway, c'est l'Esprit, il est en toi. Fait que le film, il l'écoute avec toi. Ça finit là. Il navigue avec toi sur le web. Mais j'ai pas besoin d'aller là. Vous comprenez? J'ai pas besoin d'aller jouer cette game-là avec vous. Vous connaissez Christ? Vous n'avez pas juste appris des choses sur Jésus? Vous avez entendu sa voix, vous avez appris Christ. Son Esprit habite en vous. Lisez les Écritures pour aiguiser ce discernement-là, puis faites confiance que Dieu va vous équiper pour ne plus marcher selon le vieil homme, mais marcher selon l'homme nouveau. Puis des fois, je réalise que je me suis éloigné, je me suis écarté, je me suis perdu pour un temps. Je me rappelle de la grâce, j'ai été sauvé par grâce. Je reviens à la maison, je sors de ma petite prison où j'étais retourné. Je dis, Seigneur, merci pour ta grâce. Amen. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Autrefois, on avait perdu toute sensibilité à la vérité de Dieu. Puis aujourd'hui, on a connu Jésus-Christ et sa pensée, son style de vie. Et si tu es un enfant de Dieu, si tu es un chrétien, tu te prépares à prendre bientôt le repas du Seigneur avec nous. On va célébrer ça ensemble. Ça signifie nécessairement qu'il y a en toi deux voies. Il y a la voix du vieil homme à laquelle tu dois renoncer, puis apprendre à renoncer, puis renoncer encore. Mais il y a la voix de l'Esprit qui est là en toi. Et cette voix-là veut t'instruire à te dépouiller du vieil homme, puis à te revêtir de l'homme nouveau. Et on n'a pas comme Église à demeurer des enfants spirituels, des enfants dans la foi. Vous êtes tous appelés, si vous êtes en Jésus, à devenir des hommes et des femmes matures en Jésus-Christ, simplement en n'attristant pas l'Esprit, puis en écoutant ce que l'Esprit est en train de vous montrer au quotidien, quand vous entrez en contact avec la culture, quand vous développez une culture familiale, une culture de relations interpersonnelles. Puis on va vers les Écritures pour méditer. Alors, cette semaine, moi, je vous invite pratiquement dans vos petits groupes, quand vous prenez un café ensemble, en retournant à la maison, allez relire le passage ensemble. Allez le relire, puis posez la question à Dieu, laissez l'Esprit vous parler à travers sa parole, puis demandez-lui, est-ce que je suis en train de vivre selon le vieil homme ou selon l'homme nouveau? Parce qu'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, c'est un grand privilège de te connaître. Et tu nous appelles comme assemblée, non pas à rester des enfants dans la foi, à balbutier, Seigneur, notre foi sans discernement. Clairement, dans Éphésiens 4, tu nous dis, Seigneur, que tu veux nous équiper pour le perfectionnement des saints afin qu'on soit remplis de discernement, qu'on ne soit plus errant, Seigneur. Et au contraire, tu nous envoies tous dans ce monde pour humblement user de discernement et partager ta grâce sans condescendance, sans prétention, Seigneur. Nous étions, nous aussi, ignorants. Mais nous avons entendu ta voix, Seigneur Jésus. Nous avons appris Christ, nous t'avons connu. Ce n'est pas une religion, Seigneur Jésus, que j'ai adoptée. C'est une rencontre que j'ai faite avec toi. Et aujourd'hui, c'est ma joie, Seigneur, de venir humblement dans ta présence pour te célébrer, pour t'adorer. C'est en Jésus qu'on prie. Amen.